Bonsoir à toutes et plavenguts per l'émission Gardarem la Terre sous la zone des radios Albitzes. Aujourd'hui, nous sommes avec Patrice Goyot de l'association Robin des Toits. Patrice, bien le bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Alors, vous êtes membre de l'association Robin des Toits nationale et aussi délégué régional de l'association Robin des Toits Tarn, et vous êtes en direct avec nous depuis Vabre, dans le Tarn. Alors, Robin des Toits, c'est un réseau d'associations du local au national qui, depuis de nombreuses années, nous informe sur les dangers des communications sans fil. Dans cette émission, on va donc parler d'ondes électromagnétiques et donc de téléphonie, de Wi-Fi, d'Internet et des mailles des causes incarnées. On va parler de l'actualité, de fake news et d'étranges phénomènes observés ces derniers temps dans le ciel de notre région. Je veux bien sûr parler des satellites Starlink que l'on a pu observer en cette fin du mois d'avril dans notre beau ciel. Alors, en cette fin de mois d'avril, on a pu voir beaucoup d'infos passer concernant la crise sanitaire et même parfois des intox, des fake news, notamment suite à l'apparition d'une ordonnance, prise suite à la crise sanitaire du Covid-19 et publiée le 26 mars au journal officiel. À la suite de cette ordonnance, beaucoup d'articles sont parus et notamment sur le Média. Un titre qui dit « Le gouvernement profite de la crise sanitaire pour le déploiement de la 5G ». Alors Patrice Goyot, info ou intox ?
Eh bien, je ne peux pas dire que ce soit entièrement faux. En fait, ce sont des propos qui ont été récupérés d'un communiqué qu'on a fait à Robin des Toits, qui est en ligne d'ailleurs sur le site de Robin des Toits, et qui a été quand même relativement déformé. Hein. Alors, pour en revenir donc à l'origine de cette infox ou info, peu importe, c'est en fait l'ordonnance numéro 6, donc l'ensemble de décrets qui ont été pris par le gouvernement le 25 mars pour l'urgence sanitaire. Alors, cette ordonnance numéro 6, en fait, permet, durant la période d'urgence sanitaire, aux opérateurs de téléphone et mobile d'implanter des antennes relais sans passer par des demandes d'autorisation préalable au niveau des mairies et au niveau d'urbanisme, et sans non plus demander l'autorisation des maîtres de l'Agence nationale des fréquences. Alors ça, par contre, c'est vrai. Alors ensuite, la prétendue fake news, ce serait qu'ils en profiteraient pour installer la 5G, ce qui n'est pas faux, même si c'est, ça se passe un peu dans l'ombre et en cachotterie, en fait, de façon cachée. Ce qui est vrai, par contre, c'est que les antennes qui sont installées depuis quelques temps, d'ailleurs quelques mois, par les opérateurs, je peux prendre par exemple l'exemple d'une antenne de type Hawaii qui a été installée à Issy-les-Moulineaux en région parisienne, donc il y a environ une dizaine de jours, c'est ce qu'on appelle l'antenne panneau, donc c'est une antenne toute en longueur, c'est un pareil pipa de rectangle, qui en fait contient des antennes qui sont compatibles en fait 2G, 3G, 4G et 5G. Ça veut dire qu'en fait, ces antennes, une fois installées, auront toute la câblerie, la fibrerie électronique nécessaire pour pouvoir fonctionner en 5G dès que le déploiement sera autorisé en France. Donc en fait, vous voyez que ce n'est pas vraiment une véritable infox. C'est possible. Alors par contre, il y a quand même des limitations à cette ordonnance numéro 6 qu'on vient juste d'apprendre aujourd'hui justement par le biais de notre avocat, Maître Cornelou, l'avocat de Robin des Toits. Il nous a bien précisé qu'en fait, cette ordonnance permet aux opérateurs d'implanter des antennes sur le sol. C'est-à-dire qu'en fait, pour ce qui concerne les toits d'immeubles, alors qu'on en a beaucoup dans les grandes villes, bien sûr, pour les toits d'immeubles, en fait, il faut absolument conserver l'accord de la copropriété. Ça, c'est incontournable. Voilà. Alors, en fait, je pense que la pire situation, en fait, c'est l'implantation des antennes relais sur les toits d'immeubles. Alors, Déjà, les opérateurs précisent qu'il existerait, soi-disant, un effet parapluie qui protégerait les habitants de cet immeuble en question des faisceaux, parce qu'en fait, les faisceaux ne sont pas orientés vers eux, mais en fait, sont orientés vers l'extérieur. C'est à moitié vrai, à moitié faux. En fait, ils auront moins d'impact que, par exemple, les voisins qui seront juste à côté. C'est-à-dire que les immeubles voisins, en fait, prendront les rayonnements électromagnétiques plein pot, ce qui veut dire qu'une copropriété ou un bailleur social, peu importe, autorise l'implantation d'antennes sur tout l'immeuble, quelque part, c'est un acte criminel par rapport à ses voisins. C'est un exemple.
On va continuer de parler d'actualité et notamment de 5G avec cet étrange phénomène qu'on a pu apercevoir dans le ciel de notre région. Il s'agit de lignes lumineuses qui sont dues à des satellites Starlink. Alors Kezako, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est ces satellites Starlink ?
Oui, alors ces satellites Starlink, en fait, c'est une société qui s'est donnée pour mission d'envoyer donc dans l'espace en fait des petits satellites. Alors on dit qu'ils sont en orbite basse, c'est-à-dire qu'ils sont en orbite de 400 km environ jusqu'à 1000 km, contrairement à ceux qu'on les satellites qui sont en orbite dite géostationnaire, c'est-à-dire qui ne bougent plus et qui sont en général entre 30 et 40 000 km d'hauteur d'altitude. Alors ces orbites basses permettront justement de pouvoir participer à la liaison en fait satellitaire de la 5G, c'est un complément par rapport à la 5G terrestre. On va rajouter, alors il y aurait à terme peut-être jusqu'à 60 000 satellites d'ici 5 ou 6 ans. Le plus grand nombre sera installé certainement par SpaceX, qui est la société d'Elon Musk. Donc là, par contre, ils ont un accord pour en installer jusqu'à 40 000, je crois. Voilà. Et donc, effectivement, le ciel sera constellé de ce genre de satellites. Alors, comme ils sont en orbite basse, ils ne sont pas géostationnaires, donc ils vont bouger. Donc, on les verra en permanence défiler.
Alors, c'est une pollution visuelle quand même énorme. On imagine que ça va énormément déranger nos passionnés d'étoiles.
Absolument. Les astronomes, d'ailleurs, ont lancé un cri d'alarme. Il y a un astronome de Montpellier qui a lancé un cri d'alarme, qui est donc un manifeste. Et même une vidéo sur YouTube d'ailleurs où justement il interpelle par rapport à cette situation et appelle justement les gens à se manifester par rapport à cette invasion du ciel par les satellites. En plus, il ne faut quand même pas perdre de vue que ces satellites sont lancés par des lanceurs, notamment par exemple à Toulouse, chez Airbus, ils en lancent environ entre 2 et 3 par jour. Ils sont lancés par des lanceurs qui fonctionnent du kérosène enrichi avec du plomb notamment, donc extrêmement, et du mercure, qui sont extrêmement toxiques. Et en plus, ces satellites n'ont que de durée de vie d'environ 5 ans à peu près. Dans tous les 5 ans, il faudra les remplacer. On va se retrouver avec un ciel qui sera une véritable poubelle.
Environ 60 000 satellites qui vont tourner à environ 400 km autour de la Terre. Pour nous, simples citoyens, qui ne sommes pas forcément des scientifiques, ça paraît un peu quand même une histoire, un projet proche de la science-fiction.
C'est plus de la science-fiction, là. On s'approche d'une triste réalité, malheureusement.
Qu'est-ce qu'en pense l'association Robin des Toits ? Dans ce projet, on entend que ça permettra d'offrir Internet pour tout le monde sur toute la surface de la Terre. Est-ce forcément bien nécessaire ?
Alors, c'est pas Internet là. Hein. C'est pas Internet. Ce sera l'Internet mobile, c'est-à-dire qu'en fait, la 5G deviendrait potentiellement le standard unique de communication sans fil. Actuellement, nous avons par exemple Internet par les box Internet, donc soit par les fibres optiques, soit par ce qu'on appelle le haut débit, par la DSL. En fait, la 5G potentiellement serait candidat justement pour supprimer tout ce qui existe actuellement. Et tout serait remplacé par la 5G. Alors la 5G existe de façon terrestre, elle existe de façon donc au niveau satellitaire. Alors là, en fait, il ne faut quand même pas perdre de vue que la 5G n'est pas prévue pour les usagers privés. En fait, c'est surtout prévu pour l'industrie, prévu pour les pouvoirs publics, pour tous les systèmes de surveillance, caméras reconnaissance faciale, etc. Et prévu pour la voiture autonome, enfin prévu pour tout un tas d'applications. Mais en fait, un utilisateur lambda comme que nous sommes, disposant d'un smartphone, moi je peux vous garantir que en fait, l'internet mobile par la 3G est largement suffisant. De toute façon, sur un tout petit écran, qu'est-ce qu'on a comme intérêt à télécharger en quelques secondes, soi-disant, un film à ultra haute définition ? Ça sert à rien, c'est ridicule. En plus, la ultra haute définition, c'est extrêmement gourmand en énergie. Notamment, faut quand même pas perdre de vue que l'Internet en général et les réseaux numériques consomment quasiment 15% de l'électricité mondiale.
Alors Patrice Goyot de l'association Robin des Toits, on parle depuis un peu plus de 5 minutes et on s'aperçoit quand même que ça devient vite compliqué. On parle d'ondes magnétiques, de Wi-Fi, d'Internet, 2G, 3G, 4, 5, 5G. Peut-être que c'est un peu compliqué pour la plupart du grand public. Est-ce qu'on peut faire une petite chronique toute simple et efficace sur les ondes électromagnétiques Quezaco? Parce qu'au final, les ondes, elles sont partout autour de nous. Ça nous permet de regarder la télé, d'écouter la radio, d'utiliser un téléphone sans fil, d'accéder à Internet, mais aussi, mine de rien, de passer une radio à l'hôpital. Bref, elles sont présentes partout. D'ailleurs, même les astres en émettent, le Soleil et tout un tas de planètes émettent aussi des ondes électromagnétiques.
Tout à fait. Alors, pour être assez simple, nous avons effectivement des ondes électromagnétiques naturelles, justement, lorsqu'on est bombardé par les rayons cosmiques, par exemple. Il y a aussi un électromagnétisme qui se manifeste au niveau de la Terre. Par exemple, la Terre a un champ magnétique terrestre dont la fréquence, c'est-à-dire le nombre de pulsations par seconde, est d'environ 8 Hertz. 8 pulsations par seconde. C'est la fréquence de la Terre en moyenne. Ensuite, avec l'humanité, et notamment depuis l'avènement de l'électricité, par exemple, on a vu apparaître ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques artificielles. Hein? Alors, on s'est rendu compte, en fait, que sur le plan sanitaire, justement, ces ondes artificielles n'ont pas du tout le même fonctionnement que les ondes naturelles, auxquelles le vivant a pu, durant des millions d'années, s'adapter, en fait. Hein? Mais par contre, la biologie du vivant ne peut pas s'adapter en un siècle à tous ces rayonnements artificiels. Alors, ça a commencé avec l'électricité, donc le courant électrique, notamment alternatif de 50 Hz, par exemple, en France, qui génère un champ électrique et un champ magnétique, et qui a pas pu provoquer, justement, mais avec des fréquences très basses, des effets sanitaires. Ensuite, avec l'avènement des radars, notamment, enfin, non, entre-temps, il y a quand même eu d'abord la radiodiffusion, en fait, qui sont des ondes hertziennes, qui font enfin, en moyenne entre quelques centaines de mille hertz jusqu'à quelques millions de hertz aussi. Donc, des millions, on appelle ça des mégahertz. Hein. Ensuite, donc, on a eu les radars pendant la Deuxième Guerre mondiale qui sont apparus avec des très très hautes fréquences du domaine de plusieurs milliards de hertz. Et c'est avec les radars sont apparus en fait le système de pulsation, c'est-à-dire le fait que les ondes soient pulsées, elles ne sont pas transmises uniformément dans une direction ou dans tout azimut, elles sont transmises, on appelle ça par battement, c'est-à-dire ce sont des impulsions très fortes. Le vivant, quand il reçoit ces impulsions, c'est comme des coups de poing. Hein. Alors pourquoi ces impulsions? C'est parce que ça permet justement de transmettre beaucoup plus de données. Voilà, on appelle ça transmission par paquet. Donc la téléphonie mobile utilise ce système-là, donc de électromagnétique artificielle envoyée dans certaines directions, c'est très très directionnel les antennes, et avec des pulsations. Hein. Pour vous donner une idée, par exemple, la 2G, 2G c'est pour génération, hein, donc le 2G c'est deuxième génération de téléphonie mobile qui est apparue dans les années 90. La 2G en fait émet sur des fréquences qui varient de 400 on va dire, à 900 millions de hertz à peu près. Mais la pulsation c'est 116 Hz, c'est-à-dire qu'on reçoit 116 coups de poing par seconde quand on est soumis à des ondes 2G. Hein, voilà. Ensuite, il y a eu le trajet qui permet l'accès à Internet mobile. La 4G, qui permet en fait beaucoup une plus grande capacité de transmission de données, donc ça permet encore de mieux se connecter, mais de mon point de vue, c'est complètement inutile pour les besoins personnels. Il hein. Faut pas perdre ça de vue. Et en plus, la 3G par rapport à la 2G ou la 4G, la 3G n'est pas pulsée. Donc je dirais que si quelque part on veut utiliser son téléphone mobile pour faire de l'Internet, il est préférable de le configurer uniquement en 3G. Voilà, on sera quand même mieux protégé, en tout cas moins exposé.
Patrice Goyot de l'association Robin des Toits avec nous. L'association Robin des Toits, dont un des objectifs justement, c'est d'informer et d'alerter le grand public sur l'évolution de la téléphonie mobile et des systèmes de communication et des fois de lancer des alertes. Donc dernièrement, on a beaucoup entendu du compteur communicant Linky, mais au final, on utilise tous les jours notre téléphone portable. et la Wi-Fi, et c'est peut-être aussi dangereux que le compteur Linky. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ces deux sujets dont on peut dire que les associations Robin des Toits ont été des lanceurs d'alerte?
Oui. Alors, en fait, je dirais que dans l'absolu, au plan sanitaire, mais encore, ça dépend beaucoup des personnes, chaque personne est un cas particulier par rapport à l'exposition aux ondes. Je dirais que la Wi-Fi, par exemple, qui sont des très très hautes fréquences de plus de 2,4 milliards de hertz, avec une pulsation de 10 hertz, c'est-à-dire qu'en fait, 10 pulsations, 10 battements par seconde, et ça rentre en conflit avec la fréquence des ondes du cerveau. Donc ça peut provoquer des problèmes d'endormissement, voire des insomnies, entre autres. Hein. La Wi-Fi est ce qu'on appelle les téléphones sans fil, on appelle ça les téléphones DEC, les téléphones de maison sans fil, qui utilisent les mêmes fréquences que la Wi-Fi, sont extrêmement pathogènes dans un environnement domestique. Alors, le courant porteur en ligne du compteur Linky, qui a des fréquences bien inférieures, c'est de l'ordre de quelques dizaines de milliers de hertz, exactement 35 000 hertz jusqu'à 90 000 hertz, circulent dans les câbles d'alimentation, qui en fait, eux, rayonnent. C'est-à-dire que ce n'est pas le compteur lui-même qui provoque un rayonnement, c'est la circulation de ce courant porteur en ligne dans les câbles d'alimentation qui ne sont pas faits pour ces fréquences-là, qui provoque un rayonnement magnétique et électrique, un champ électrique et magnétique. Alors, dire que l'un est plus grave que l'autre, on ne peut pas s'avancer sur ce sujet. Disons, je dirais de façon générale, quand on fait des mesures d'exposition avec des appareils de mesure spécifiques, on va trouver certainement plus de champs électromagnétiques avec le Wi-Fi qu'avec le courant porteur en ligne. Mais le problème des courants porteurs en ligne, ça va beaucoup plus loin qu'une simple exposition sanitaire. D'abord, on exposait H24. La Wi-Fi, on peut l'arrêter. Un téléphone, on peut l'arrêter. Le courant porteur en ligne du Linky, on ne peut pas l'arrêter. Il y a même pire, c'est-à-dire que si, par exemple, nous, on a refusé un compteur Linky chez soi, dans la mesure où dans le voisinage, eh bien, il y a des compteurs qui sont installés et qui fonctionnent, eh bien, on sera pollué électriquement pour ce courant porteur en ligne des voisins. Donc là, à ce moment-là, on est exposé H24. Et en plus, le Linky, comme les compteurs communicants Gaspard pour le gaz, les compteurs communicants de l'eau, c'est un choix de société, c'est-à-dire c'est un système en fait de tout numérique qui permet d'une transmission de données, captation des données, etc. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas indispensable au bon fonctionnement de notre société et surtout au bon fonctionnement des fournisseurs d'électricité, de gaz ou d'eau. Voilà, ils peuvent pas largement s'en passer et en plus, ce sera plus générateur d'emplois.
Alors, vous évoquez des problèmes de santé, mais il y a un peu un paradoxe puisque la Wi-Fi, le téléphone, le compteur Linky, ce sont des systèmes qui doivent respecter des normes. Et donc, ils les ont, ces normes, puisqu'ils sont installés. Mais vous évoquez le principe de précaution. Et c'est vrai que dans d'autres pays, ces systèmes sont interdits par, justement, grâce à des études sanitaires qui ont montré parfois que ça pouvait, justement, nuire à la santé.
Alors, en fait, ces normes, si vous voulez, elles ont été édictées à la fin de 1998 par un organisme international qui s'appelle l'ICNIRP. Alors, je pourrais pas me rappeler exactement de quoi il s'agit au niveau de la symbolique. Par contre, c'est un organisme qui est complètement et largement inféodé justement par les opérateurs du monde numérique, d'électricité et de l'énergie. Donc, ils ont édicté des normes qui sont extrêmement élevées. Alors, pourquoi elles sont-elles? C'est parce qu'en fait, elles ne prennent en considération que les effets thermiques des ondes électromagnétiques artificielles. Hein. Alors, autant ces effets thermiques se font avérer pour les très hautes fréquences, notamment la téléphonie mobile, c'est effectivement quand on a un téléphone contre l'oreille pendant un quart d'heure, ça provoque un échauffement de la tête qui se manifeste notamment quand on souffle par la production d'acétone, par exemple. Mais par contre, ça ne tient pas du tout compte des effets biologiques sur les cellules, sur la cellule, sur le vivant. Hein. Et ça, c'est un déni en fait des autorités sanitaires ou des autorités politiques de la plupart des pays en fait. Hein, bien que pourtant ces manifestations sur le biologique aient été mises en évidence par des milliers d'études sanitaires qui ont été faites depuis une trentaine d'années de par le monde. Alors, il faut aussi voir que à des fréquences nettement inférieures à celles de la téléphonie mobile, comme par exemple le courant porteur en ligne du compteur Linky, l'effet thermique est inexistant. Hein, parce que justement, il n'y a pas de production de chaleur à ce moment-là. Par contre, ce sont des champs magnétiques qui vont agir sur la cellule, sur le vivant. Donc nous, on demande en fait l'application comme vous dites, par principe de précaution, de ce qu'on appelle la résolution du Conseil de l'Europe de 2011, qui a préconisé en fait des valeurs d'exposition ne dépassant pas 0,6 volts par mètre de champ électromagnétique pour des durées n'excédant pas 4 heures. Et pour des expositions permanentes, il faudrait redescendre à 0,2 volts par mètre. Ça veut dire que ce sont des valeurs qui sont 100 fois inférieures aux normes justement de la...
Alors justement, l'association Robin des Toits qui propose d'informer les citoyens donne tout un tas d'informations et de petites fiches bien pratiques pour que chaque individu ou bien un collectif essaie de réduire ses ondes par des méthodes toutes simples. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment nous, chez nous, individuellement ou collectivement, on peut se protéger et limiter notre exposition à ces ondes électromagnétiques?
Oui, alors c'est un sujet quand même qui n'est pas simple. Je vais essayer d'en tracer les grands principes. C'est effectivement, nous avons fait avec un collègue du conseil d'administration de Robin des Toits l'an dernier un nombre assez important de fiches, pas mal de fiches sur le compteur Linky, les compteurs de communicants gaz et eau, mais aussi sur la Wi-Fi, des ECT, sur les box internet, etc., et sur les téléphones. Alors, je vais te donner un exemple parce que c'est le plus criant. C'est par exemple, en fait, quand on est appelé chez des personnes qui prétendent souffrir en fait de la proximité d'antennes relais, on se rend compte en fait en les questionnant sur l'habitude d'utilisation des appareils connectés qu'ils ont chez eux, et en fait ils sont plus exposés en fait à la façon dont ils utilisent par exemple leur téléphone que par l'antenne relais qui est proche de chez eux. Alors, leur téléphone, en fait, notamment les smartphones, par exemple, ils peuvent être en veille ou en mode avion. Alors, quand on s'en sert pas ou quand on n'a pas d'appel, eh bien, si on l'a chez soi ou si on l'a sur soi, qu'on est en mouvement, il est préférable de le laisser en mode avion et de ne pas le mettre en activité parce que, effectivement, l'appareil fait en permanence du ping-pong avec l'antenne relais la plus proche. Ensuite, je vous ai expliqué que la 3G n'est pas pulsée. Donc, il est préférable, en fait, lorsqu'on a un téléphone, un smartphone, de le paramétrer pour désactiver la 4G. C'est pas la peine de s'en servir. Ça sert strictement à rien. Donc, on désactive la 4G, qui est la plus dangereuse au niveau sanitaire. Ensuite, avec un téléphone portable, on n'a pas besoin non plus d'avoir du Wi-Fi et du Bluetooth. Donc, de préférence, on désactive aussi ces options-là. Ce n'est pas la peine de s'en servir. La 3G suffit pour faire l'Internet mobile, ce n'est pas la peine d'avoir la Wi-Fi. Hein, voilà. Donc déjà, quand on utilise ce téléphone avec précaution, on est beaucoup moins exposé. Quand on l'a chez soi, qu'on le laisse en veille parce qu'on attend un appel ou qu'on veut être disponible pour répondre, il faut le mettre au moins à 2 mètres de soi pour éviter justement d'être encore exposé. La Wi-Fi, il faut vraiment, de préférence, ne pas s'en servir, avoir des connexions uniquement filaires par des câbles Ethernet. Si c'est vraiment impossible, soit on s'en sert un peu dans la journée, mais la nuit, par pitié, il faut la désactiver, faut arrêter la Wi-Fi de la box. Mais on peut aussi, en solution, je dirais, de remplacement qui n'est pas parfaite, mais c'est moins pire que la Wi-Fi, c'est utiliser par exemple ce qu'on appelle des home plug Internet, qui permet de rapatrier le signal Internet de la box par les câbles électriques vers par exemple la télévision ou les ordinateurs qui sont pas dans la même pièce. Voilà, ce sont des exemples. Mais il faut vrai, et surtout, et à prohiber complètement, c'est ce qu'on appelle les téléphones fixes de maison sans fil, avec des bases et puis des téléphones que l'on peut emmener avec soi pour téléphoner. Je reconnais que c'est pratique, mais c'est franchement, sur le plan sanitaire, c'est vraiment la pire des...
Merci bien, Patrice Goyot, pour tous ces conseils techniques. Donc, n'hésitez pas, pour les auditeurs qui le souhaitent, vous pouvez retrouver ces fiches pratiques en allant sur Internet, sur les différents sites de l'association Robin des Toits. On va terminer cette émission en parlant à nouveau d'actualité. Comment se passe pour vous, Patrice Goyot, installé à Vabre dans le Tarn, cette période de crise sanitaire et ce confinement?
Alors, sur le plan strictement personnel, bon, Vabre, c'est un petit village de montagne. On est dans une vallée, il y a 600 habitants. On est complètement dans la nature. Je veux dire, le confinement, c'est pas franchement une punition. Parce qu'on peut quand même sortir, on peut s'aérer, on est... Par contre, le contact social, bien sûr, manque. Après, moi, la question que je me pose, c'est voilà, est-ce que le confinement était inévitable? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions? C'est surtout ça, puis c'est surtout le fait qu'on profite de cette période-là de troubles, à la fois enfin, de troubles troublés et troublantes, pour faire passer des lois que je qualifierais relativement de liberticides, en nous disant que c'est provisoire, mais en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il y a eu des crises de ce type, pas forcément sanitaires, mais autres, en fait, les décrets ou lois d'urgence qui étaient temporaires, en fait, ont toujours été définitives, n'ont jamais été enlevées. Donc, c'est un peu les craintes que j'ai par rapport à la situation actuelle. Voilà, pour faire simple.
On sait que cette crise sanitaire est due aussi à la mondialisation un peu excessive. Est-ce que c'est l'occasion pour vous et pour bien d'autres personnes de réfléchir sur un peu le monde dans lequel on vit, comment on le fait tourner, et peut-être revoir un peu nos modes de fonctionnement et nos modes de consommation.
Ah oui, ça c'est une bonne question. Mais j'ai déjà commencé par l'aspect des ondes, parce que là je vais dire quelque chose qui va certainement faire hurler les pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'en fait les ondes électromagnétiques, ça a été mis en évidence par des études, mais qui sont reniées justement par ces autorités sanitaires, affaiblissent le système immunitaire. Donc un système immunitaire affaibli, eh bien, nécessairement, est moins résistant justement à des attaques infectieuses ou virales. Donc, on peut dire, je crois, sans se tromper, et ça, on n'a quand même pas vraiment des arguments pour ça, que le fait que les gens sont en permanence et de plus en plus exposés aux ondes, et la 5G n'a pas aggravé la situation, bien évidemment, ne renforce pas leur système immunitaire et leur résistance justement aux maladies. Ça, c'est dommage, mais c'est un constat. Après, comme vous le dites, la mondialisation, la facilité avec laquelle on peut se déplacer, les moyens de transport, les denrées alimentaires ou autres qui circulent dans tous les sens, ça va générer bien évidemment la propagation accélérée et plus facile de tous les virus et autres infections possibles. Et je pense qu'on a vraiment besoin, alors on se rend compte quand même que si par exemple, j'ai lu récemment qu'à Paris, si elle est coupée de possibilité d'être alimentée en vivres, en fait, elle a que 4 jours de réserve. Donc, en fait, on se rend bien compte que dans les grandes villes, il va falloir complètement repenser le mode de fourniture d'éléments essentiels et renforcer l'autonomie et surtout la production locale, enfin la fourniture locale. C'est-à-dire qu'il faut vraiment retrouver un fonctionnement à la fois environnemental, écologique, qui favorise le local, et ça veut dire aussi que si on sur le plan économique et industriel, eh ben la délocalisation due à l'hyperlibéralisme qui est à force de loi depuis une trentaine d'années, c'était une grave erreur. Il faut revenir vers une relocalisation de la production de ce qui est nécessaire pour le fonctionnement d'un pays. C'est une évidence.
Pour terminer, on sait que le 25 avril dernier, c'était la journée internationale contre la 5G, donc une journée qui a été annulée, mais qui s'est déroulée autrement, notamment sur Internet via des conférences. Est-ce que vous avez prévu, vous, des futures actions? Est-ce que vous avez des futurs dossiers sur la table où vous êtes en train d'y réfléchir?
Oui, tout à fait. En fait, juste avant le confinement, c'est-à-dire début mars, en fait, on a déjà émis une requête au Conseil d'État pour demander un moratoire sur la 5G dans la mesure, en fait, elle est déployée, elle va être déployée, si elle l'est, sans aucune étude sanitaire au préalable. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont servir de cobayes. Hein, on va déployer, puis ensuite, on va peut-être faire un point d'arrêt, puis on va regarder ce qui se passe. Voilà. Je pense que le principe de précaution qui prévalent dans beaucoup de situations, devraient en fait nous inciter à d'abord vérifier s'il n'y a pas de problème sanitaire avéré par rapport à ce type de technologie avant d'aller déployer en masse et surtout sur la planète entière. Voilà, parce que tout le monde sera exposé de par justement les satellites. Hein. Donc ça, c'est une première chose. On a fait aussi une requête par rapport au compteur Linky, compteur Enedis, hein, c'était en début d'année. Et là, on est en train de préparer pas mal de choses aussi avec d'autres associations partenaires en Belgique, en Suisse, en Italie, etc. Donc on essaie un peu d'internationaliser le mouvement. Pour ce qui concerne le 25 avril, il y avait eu aussi une chose assez intéressante, mais bon, il y a eu peu de participation. On a fait avec le site de Cyberacteur, qui est une plateforme de pétitionnaires, on a fait une cybermanifestation. C'est-à-dire que les gens se connectaient en ligne, ils étaient déclarés comme cybermanifestants. Bon, c'est une première tentative. Bon, il n'y a eu qu'environ 1 million de manifestants, donc ce n'est pas grand-chose, mais je pense qu'on pourra le reproduire. Mais de toute façon, localement, il y a quand même pas mal de gens qui ont essayé de faire quelque chose, même individuellement, des banderoles sur les balcons, etc. Enfin bon, ça a été tranquillement festif, on dira. Et il faut qu'on invente de nouveaux paradigmes pour se manifester.
Patrice Goyot, grand merci Père Toutaco, comme on dit chez nous.
Et merci beaucoup à vous.
Je rappelle que vous êtes membre de l'association Robin des Toits au national et au local aussi avec Robin des Toits Tarn. Grand merci et à le plaisir.
Au revoir.